Lundi le 1er octobre, déjà premier jour du mois d'octobre. Ah, il faut pas oublier, c'est aujourd'hui.
On peut pas l'oublier.
Alors déplacez-vous, les bureaux de vote seront ouverts entre 9h30 et 20h ce soir. Donc, allez poser votre petit X sur le bulletin. On vous souhaite la bienvenue, c'est l'émission Les Voix de Service Magazine qui débute à l'instant. Et on vous lit quelques articles et on va les retrouver tout de suite. Franceline Nieuwiart, comment allez-vous?
Oui, ça va bien, merci. Bonjour.
Bonjour.
Alors, mon premier article s'intitule « Le Québec, une fabrique à itinérants ?» point d'interrogation. C'est un éditorial écrit par Charles-Éric Laverie dans le journal L'Itinéraire du 15 septembre 2018. Et en deuxième partie, je vous ferai un petit tour des actualités d'octobre. En effet, le 1er octobre, c'est la journée internationale des aînés. Du 1er au 7 octobre, c'est la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Et le mois d'octobre est le mois du cancer du sein. Alors, ouais, j'aurai trois petits articles en rapport avec ces trois thèmes.
Excellent. Et M. Serge Hamelin, qui voit la vie en couleur ce matin.
Ah oui. Ouais. Oui. Alors, avec un bon café, êtes-vous amateur de café? Mm-hmm. Oui. Alors, le dossier dans la revue Protégez-vous aidera à choisir l'appareil qui répond à nos besoins.
Ah.
Ils ont fait des tests.
D'accord.
Oh. Mm-hmm. Et en même temps, je vais vous parler d'un autre dossier qui se trouve à être le plastique.
Ah, le fameux plastique qu'on retrouve.
Les fameux sacs en plastique, les bouteilles en plastique.
Ah. Les pailles en plastique.
En 2050, si tout se poursuit comme ça, il va y avoir plus de sacs en plastique dans l'océan que de poissons.
Ah bon, ça.
Alors donc, si on pêche du poisson, il risque d'être déjà enveloppé dans un sac de plastique.
Belle
C'est
blague.
Ça ce qu'on appelle le recyclage.
Oui, effectivement. Merci Serge. Et de mon côté, ben, je vous parle du système immunitaire. Imaginez, je vous dis qu'est-ce que c'est, premièrement, le système immunitaire.
Ouais, c'est quoi? Hein?
Et comment renforcer son système immunitaire aussi. Donc, c'est okay. Deux papiers que j'ai retrouvés sur le site de passeport.net. Alors voilà, on vous revient dans quelques instants avec Franceline. Franceline, c'est à votre tour.
Oui, alors, le Québec, une fabrique à itinérants. Alors, le 1er octobre, aujourd'hui, les Québécois sont appelés aux urnes pour élire le prochain gouvernement. Beaucoup de promesses ont été faites par les partis. Beaucoup d'enjeux ont été soulevés. Mais comme à chaque campagne, rien n'a été dit ni promis sur la lutte à l'itinérance et à la pauvreté. L'itinérance n'est peut-être pas un sujet populaire comme la santé, l'éducation ou l'économie, mais c'est un enjeu majeur de société. Des pistes claires doivent être proposées tant pour la prévenir que pour lutter contre. On sensibilise de plus en plus à l'itinérance en dehors des grandes villes et ce n'est pas un hasard. C'est vrai, de plus en plus de personnes vivent dans la rue partout au Québec. La loi 25 et son programme Objectif Emploi, en vigueur depuis le 1er avril 2018, a un impact direct sur l'itinérance. Certains affirment même qu'il s'agit d'une fabrique à itinérants. Les demandeurs de l'aide sociale doivent s'inscrire à un parcours obligé vers le marché du travail. S'ils quittent le programme, ils risquent de voir passer leur prestation mensuelle de 624 à 404 $. Difficile de garder un logement et de manger avec un tel montant. À l'itinéraire, nous constatons au quotidien les nombreuses barrières que doivent franchir nos camelots prestataires de l'aide sociale. D'où la nécessité d'une approche personnalisée et adaptée à leur réalité, en renforçant les démarches positives plutôt qu'en misant sur l'aspect punitif. Car sortir du cycle de l'itinérance dépend bien plus que d'un simple processus de recherche d'emploi. Il faut avant tout reconstruire un réseau social et surtout une estime de soi. À l'itinéraire, cette approche fait ses preuves depuis près de 30 ans. L'une de nos camelots nous a d'ailleurs annoncé qu'elle quittait l'organisme pour s'inscrire à un cours d'agente de sécurité. Elle souhaitait le faire il y a 2 ans, à son arrivée à l'itinéraire, mais elle n'avait pas assez confiance en elle. C'est la création de liens positifs avec ses pairs et ses clients, en plus de la rédaction de reportages dans le magazine, qui lui ont donné l'estime nécessaire pour entreprendre sa démarche. Le gouvernement provincial devrait ainsi miser sur l'expertise des organismes pour établir ses programmes. L'itinéraire en est un, mais il en existe une multitude d'autres. D'ailleurs, savez-vous que même un prestataire de l'aide sociale qui travaille, comme Camelot par exemple, n'a le droit d'amasser que 200 dollars de revenus supplémentaires? Et si l'expertise d'organismes comme l'itinéraire était reconnue, serait-il envisageable de rehausser ce montant maximum pour les personnes accompagnées à travers de tels programmes de réinsertion sociale? Ce n'est pas par choix qu'une personne reçoit 624 dollars par mois. C'est en dernier recours. Il existe d'ailleurs une forte corrélation entre itinérance et aide sociale. Pourtant, il existe encore une tonne de préjugés à leur égard. Paresseux, dites-vous, nos camelots travaillent souvent à temps plein, même 7 jours par semaine. Et c'est sans compter les nombreux articles qu'ils rédigent, ils restent pourtant confrontés au mépris des gens. Depuis l'instauration de l'aide sociale, il y a 30 ans, les programmes du gouvernement n'apportent rien de plus, en laissant même croire qu'il est digne de vivre avec 624 dollars par mois. Un montant qui ne couvre pas la moitié des besoins de base. Ces besoins de base, ils sont calculés selon la mesure du panier de consommation, qui est une norme canadienne et qui prend en compte la nourriture, l'habillement, les chaussures, les transports, le logement. Ce montant de 624 dollars par mois doit être rehaussé et le gouvernement doit briser ses préjugés par l'éducation et une vraie campagne de sensibilisation à l'échelle du Québec. Enfin, les 4 dernières années ont été marquées par des coupures de financement et de services dans le milieu communautaire, alors que les coffres de l'État ont été remplis. Seulement 2% du budget de l'itinéraire, 32 000 dollars, provient du programme de soutien aux organismes communautaires. Le financement doit être rétabli et même bonifié. À l'image de la nouvelle politique de reconnaissance des organismes communautaires de Montréal, leur expertise doit être reconnue au niveau provincial également. Donc voilà, c'était l'éditorial écrit par Charles-Éric Lavry dans le journal L'Itinéraire du 15 septembre 2018.
Merci beaucoup, Franceline. On revient dans quelques instants avec Serge. Alors, Serge, on parle de cafetière.
Oui, et de café.
Et de café,
ben oui, surtout, oui. Alors, vous aimez prendre un bon petit café le matin?
Oui.
Et puis celui que vous prenez, là, il pourrait être meilleur, peut-être?
Ah, sûrement.
Alors, si vous voulez savoir comment il pourrait être meilleur, eh bien, écoutez bien. Okay. Donc, Linda Gauthier a écrit cet article. Ça fait plusieurs années que vous réclamiez un test de cafetière filtre, dont le dernier remontait à 2006. Eh bien, c'est désormais chose faite avec cette évaluation réalisée en collaboration avec Consumer Reports. On a évalué 33 modèles parmi les plus populaires en tenant compte de plusieurs critères. La performance d'infusion, la facilité à faire fonctionner et à nettoyer l'appareil, à le remplir d'eau de même qu'à installer le filtre. On a également évalué la facilité à manipuler la carafe et la vider. Ouais. Au total, 10 cafetières se classent dans notre palmarès de recommandations. Maintenant, on va savoir si vous avez cette cafetière. Et pour satisfaire les amateurs de café espresso, dont je suis, nous avons également mis à l'essai 18 machines qui produisent ce type de café. Et en collaboration avec l'Académie culinaire de Montréal, nous avons évalué divers aspects techniques comme l'ergonomie des appareils, le positionnement des commandes, le niveau de bruit ainsi que la facilité à nettoyer les différentes composantes. Chaque barista et torréfacteurs ont aussi goûté à l'aveugle les espressos produits par chacune des machines de notre évaluation. Et leur mission, identifier les appareils qui préparent le mieux un café bien équilibré, né aux arômes agréables. Ils ont aussi tenu compte de l'aspect de la mousse, appelée crema. Et résultat, 6 appareils obtiennent la mention « bon choix » ou « meilleur choix ». Alors, on va regarder ça tranquillement, pas vite. Alors, bien choisir votre cafetière filtre. Alors, on va parler de la cafetière filtre maintenant. La capacité, le réservoir, le type de carafe et les filtres. Donc, une cafetière dotée d'un filtre permanent, comme c'est le cas de plus de la moitié des modèles testés, vous évitera d'acheter des filtres en papier. Elle nécessitera cependant un nettoyage plus minutieux afin de bien déloger les grains. Et à noter que lors des tests, on n'a observé aucune différence significative de performance entre les appareils avec filtre permanent ou sans. Donc, il vaut mieux peut-être opter pour une sans filtre, mais filtre. Filtre permanent, d'accord. Alors, il y a d'autres fonctions utiles, programmables. Vous avez des réveils difficiles. Avec une cafetière programmable, vous pourrez préparer votre café et régler l'heure de l'infusion de la veille. Hein? La majorité des modèles testés possèdent cette option. Il y a l'arrêt automatique aussi. Et cela évite que le café et la carafe en verre ne chauffent trop longtemps. Et cette fonction est offerte sur la plupart des appareils testés. Et le contrôle d'intensité du café. Certains appareils, comme 6 des recommandations, adaptent le temps d'infusion afin de produire une boisson plus ou moins corsée selon vos désirs. Alors, ici, avec 42% de notes, la plus mauvaise ou la moins bonne, c'est la Williams Sonoma Signature Touch, que je connaissais absolument pas.
Non.
Ensuite, à la fin du peloton, celle-là, on la connaît probablement, elle s'appelle, en milieu de peloton, la Hamilton Beach. Mm-hmm. Hein, quand on va chez Canadian Tire, on voit la Hamilton Beach. Alors, celle-là, elle a une note de 66%, puis il y a deux autres Hamilton Beach, 61%, puis il y a la Black & Decker aussi, là, qui est à 58%. Alors donc, si vous avez ces machines à café, là, c'est pas pour rien que votre café n'est pas fameux. Mais par contre, oh là là, avec 84%, ça c'est la meilleure note. Le prix est quand même de 145 $. Okay. Elle se classe pour le temps d'infusion, maniabilité de la carafe, facilité d'utilisation, la performance, le filtre permanent permet de faire une petite infusion, contrôle d'intensité du café, etc., etc. Eh bien, en première position cette semaine, c'est la Cuisinart.
Ah,
oui. Perfect Temp. Et il y a un numéro de série avec ça, là. C'est la DCC 3200C.
Ah.
OK? Donc, Cuisinart. Ensuite de ça, vous avez Capresso. Connais pas, moi. Capresso. Et on connaît plus la KitchenAid.
Oui.
Hein? Alors, donc, ici, Cuisinart, KitchenAid, c'est parmi les meilleurs cafetières filtres. Maintenant, vous aimez ça un peu plus. Oui. Alors là, on tombe dans les cafés espresso,
oui.
Les machines espresso. Et il y a des manuels ou des automatiques. Si vous achetez une automatique, la meilleure, qui est la Jura, 1990 $.
Oh.
OK? Mm-hmm. Alors, c'est la Jura Impressa E6. Si on y allait avec la manuelle, et la meilleure des manuels, que je ne connaissais absolument pas, ni de nom, ni d'Adam, ni d'Ève, c'est Gaggia.
Ah,
Gaggia classique. Et c'est la moins chère. C'est pas la moins chère, mais c'est la moins chère des trois meilleures.
Uh-huh.
$570. Ensuite, la meilleure qui arrive deuxième, c'est $760. C'est la Lelite. L-E-L-I-T. OK? Et la troisième, que je connais, pour en avoir eu une en cadeau, Oui, je suis très chanceux. C'est la Breville Barista Express. Hein? Mmh. Breville, on en a entendu parler. Elle est seulement qu'à 755 $. Okay. Pas loin de 1 000 $, ça, quand on met les taxes, voyez-vous. Mmh. Alors, on a les trois meilleures, la Gaggia, la Lelite et la Breville. C'est bon pour vous, ça? Uh-huh. Pourquoi on choisirait une manuelle ou une automatique? Ouais. Hmm. Alors, une cafetière manuelle nous permet de contrôler plusieurs paramètres, dont la force de compression et le temps d'extraction du café. Mmh. Vous pouvez ainsi produire des espressos qui répondent au goût de chacun. Toutefois, cela exige une série de manipulations. Remplir le filtre, compresser le café. Et ces modèles sont en général moins chers que les automatiques. Et parmi les recommandations de cafetières manuelles, les bons choix se vendent. Il y a quand même un bon choix qui se vend à 400 $. Mmh. OK? C'est la DeLonghi Dedica de luxe. Mais ce n'est pas la meilleure. Alors, vous préférez la facilité, et on termine là-dessus, optez pour un appareil automatique, un peu comme les autos, finalement. Ouais. Mais c'est plus cher, hein, les automatiques que les manuels, vous saviez ça, hein? Alors, optez pour un appareil automatique qui calcule lui-même la quantité de grains requise pour chaque tasse. Les cafetières automatiques produisent un café d'une qualité comparable à celui des manuels, mais elles le font un peu plus vite. 2 minutes 16 secondes en moyenne pour deux tasses, contre 3 minutes 40 secondes pour les modèles manuels. Mmh. Alors, êtes-vous un pressé le matin?
Exact.
Hein? Il y a 1 minute et quelques secondes de différence. Hein? Ouais. Alors, la facilité et la rapidité ont toutefois un prix et les deux meilleures machines automatiques du test se vendent à 1215 et 1990 $. Comment? Alors, vous avez le choix entre 1 minute et 16 secondes, OK, pour plus que 1 000 $ de différence.
Et que ferais-je de cette minute et 16 secondes?
Ah, ma chère. Il y a tellement de choses à faire.
Dans ce monde qui va toujours très vite, hein, il y a des gens qui choisiraient la cafetière qui prend moins de temps. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Serge. On s'en va à la pause musicale. Et tout de suite après, je vous reviens avec des petites précisions côté système immunitaire.
Oh.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur.
Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
On a tort de penser, je sais bien, au lendemain.
À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. en furie de son approche bas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apporte.
Plus bleu que tes yeux, Charles Aznavour et Édith Piaf.
Ah, voilà. On cherchait
alors
le nom.
Alors, j'étais
de
pas
la...
loin de Mireille Mathieu, quand même, hein, parce
oh,
que...
Oh, non!
J'en étais très loin, M. Blain. Mais quand même. Merci beaucoup. Le système immunitaire, vous connaissez? Ben, qu'est-ce que c'est? C'est un petit papier que j'ai trouvé sur le site de passeport.net, passeportsanté.net, en fait. Et qui est très intéressant. On parle de quatre choses différentes, en fait, pour le système immunitaire. On parle des organes du système immunitaire, les étapes de la réponse immunitaire en soi non spécifique et la réponse immunitaire qui, elle, est spécifique. Alors, voici le premier, les organes du système immunitaire. Ils sont invisibles à nos yeux, on le sait. Ils assurent pourtant la garde de jour comme de nuit. Que ce soit pour guérir une otite ou un cancer, le système immunitaire est essentiel à la vie. Le système immunitaire est en fait d'un système d'interaction complexe mettant en œuvre de nombreux organes, cellules et substances différentes. La majorité des cellules ne se trouvent pas dans le sang, mais plutôt dans un ensemble d'organes appelés organes lymphoïdes. On parle de la moelle osseuse et le thymus. Ces organes produisent les cellules immunitaires, donc ceux qu'on appelle les lymphocytes. La rate aussi, les ganglions lymphatiques, les amygdales aussi, et les amas de cellules lymphoïdes situés sur les muqueuses des voies digestives, respiratoires, génitales et urinaires. C'est habituellement dans ces organes périphériques que les fameuses cellules sont appelées à réagir. La rapidité d'action des défenses immunitaires est extrêmement importante. Celle-ci repose entre autres sur l'efficacité de la communication entre les divers acteurs en jeu. Le système cardiovasculaire est la seule voie de passage qui relie les organes lymphoïdes. Bien qu'on ne puisse encore en expliquer tous les mécanismes, on sait aujourd'hui qu'il existe d'importantes interactions entre le système immunitaire, le système nerveux et le système endocrinien. Certaines sécrétions des cellules immunitaires sont comparables à des hormones sécrétées par les glandes endocrines et les organes lymphoïdes possèdent des récepteurs pour des messages nerveux et hormonaux. On peut diviser les étapes de la réponse immunitaire en deux. La réponse non spécifique, qui constitue l'immunité innée, nommée ainsi parce qu'elle est présente dès la naissance, agit en ne tenant pas compte de la nature du micro-organisme qu'elle combat. Et la réponse spécifique qui confère l'immunité acquise passe par la reconnaissance de l'agent à attaquer et la mise en mémoire de cet événement. Les barrières physiques maintenant, ben, y a la peau, hein, naturellement qu'on connaît, et les muqueuses sont les premières barrières naturelles auxquelles se butent les assaillants, les fameux virus. La peau est le plus grand organe du corps et offre une protection incroyable contre les infections. En plus de constituer une interface physique entre l'environnement et nos systèmes vitaux, elle offre un milieu hostile aux microbes. Sa surface est légèrement acide et plutôt sèche, et elle est couverte de bonnes bactéries. Cela explique pourquoi l'hygiène excessive n'est pas nécessairement une bonne chose pour la santé. Donc se laver à tous les jours, entre autres. La bouche, les yeux, les oreilles, le nez, les voies urinaires et génitales offrent tout de même des voies de passage pour les microbes. Hein, quand on donne la main à quelqu'un et on se passe la main sur le nez, ben, voilà, le microbe entre. Ces voies ont aussi leur système de protection. Par exemple, les réflexes de la toux et de l'éternuement expulsent les micro-organismes des voies respiratoires. L'inflammation maintenant est la première barrière que rencontrent les micro-organismes pathogènes qui franchissent notre enveloppe corporelle. Tout comme la peau et les muqueuses, ce type de réponse immunitaire agit sans connaître la nature de l'agent qu'il combat. Le but de l'inflammation en fait, est d'inactiver les agresseurs et de mettre en œuvre la réparation des tissus. Voici les principales étapes de l'inflammation. On parle de la vasodilatation et la plus grande perméabilité des capillaires dans la zone atteinte. On pourrait faire d'augmenter l'afflux sanguin. la fameuse... qu'est-ce qui est responsable de la rougeur, en fait, quand vous l'avez. Et de permettre l'arrivée des acteurs de l'inflammation. La destruction des pathogènes par les phagocytes, un type de globule blanc qui est capable d'englober des micro-organismes pathogènes ou d'autres cellules malades et, en fait, de les détruire carrément. Il existe plusieurs types, les monocytes, les neutrophiles, les macrophages et les cellules tueuses naturelles, les fameuses tueuses, les cellules NK qu'on connaît très très bien, sur du temps passé.
Bien sûr!
Le système du complément qui comprend une vingtaine de protéines qui agissent en cascade et permet de détruire directement les microbes. Le système du complément peut être activé par les microbes eux-mêmes ou par la réponse immunitaire spécifique. La réponse immunitaire, elle, spécifique, qu'est-ce qu'elle dit? C'est ici qu'interviennent les lymphocytes, un type de globule blanc dont on distingue deux classes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B comptent pour environ 10% des lymphocytes qui circulent dans le sang. Lorsque le système immunitaire rencontre un agent étranger, les lymphocytes B sont stimulés, se multiplient et se mettent à produire des anticorps. Les anticorps sont des protéines qui se fixent sur les protéines étrangères. C'est le point de départ de la destruction du pathogène. Et pour terminer, la réponse immunitaire spécifique crée l'immunité acquise, celle qui se développe au fil des ans en conséquence des rencontres que notre organisme fait avec des molécules étrangères spécifiques. Ainsi, notre système immunitaire garde en mémoire les bactéries et virus particuliers qu'il a déjà rencontré afin de rendre la seconde rencontre beaucoup plus efficace et rapide. On estime qu'un adulte a en mémoire à peu près 10% de protéines étrangères différentes, ce qui explique que l'on n'attrape pas la varicelle et la mononucléose deux fois, par exemple. Il est intéressant de remarquer que l'effet de la vaccination est de provoquer cette mémoire d'une première rencontre avec un pathogène. Alors, c'est des mots un petit peu compliqués ce matin, mais tout ça pour vous dire que le système immunitaire, il est très important pour la vie, en tous les jours. Et dans la deuxième partie de l'émission, je vous donnerai quelques trucs pour renforcer justement votre système immunitaire parce qu'il y a des actions à prendre pour le faire. Merci Serge. On s'en va directement à la deuxième partie de l'émission. Dans quelques instants, on reviendra tout de suite avec Serge.
De tempo que os jovens de hoje, eu sei, não conhecem. Montmartre amanhecia e os lilases cresciam naquela janela. E se um ninho de amor da bela e do pintor era um simples abrigo, foi lá que se encontraram. Ele acreditava e ela se entregou. Lá ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
Et no café da esquina, uma só esperança, encontrar a glória. Mesmo sem ser ninguém, mesmo sem um vintém, era uma bela história. E naquele bistrô, uma sopa chegava em troca de uma tela. Preenchia o vazio, recitavam versos e esqueciam o frio.
La bohème, la bohème, ça voulait dire
tu.
La bohème, et nous avions tous du génie.
quanto tempo passou, as horas nem contou, dessas noites em claro, a desenhar o amor, a retocar a cor de tudo que vivei. E só de manhãzinha sentavam, enfim, pra tomar um café, cansados, mas felizes, nada além dos dois, pro que der e vier. Lá acaso lhe faz voltar mais uma vez ao antigo endereço, não reconhece mais nem ruas nem quintais que viram seu começo, tenta reviver, procura o ateliê onde mais nada existe, sem flores nos murais, Montmartre hoje é triste, nem mais um lilás. Lá
le trio Esperanza, la bohème.
Belle reprise quand même. Serge, on y va en parlant de plastique.
Eh oui, c'est de pollution. Mm-hmm. Et puis, avez-vous remarqué qu'il y avait une petite fraîcheur ce matin?
Oui.
Ça vous fait penser à Noël? Et Noël, c'est mon beau sapin. Vrai ou faux sapin? La science a tranché. L'arbre naturel est plus écolo que son cousin artificiel, ah, à moins que vous utilisiez le même sapin de plastique pendant 20 ans. OK?
OK. Mm-hmm.
Bon. C'est ce que conclut une étude québécoise de 2009 qui a comparé leur bilan carbone. D'un côté, les chercheurs de la firme Ellipsos, aujourd'hui appelée Helio, spécialisés en développement durable, ont analysé le sapin naturel qui a poussé dans une pépinière à 150 km au sud de Montréal et que le client a acheté dans la métropole à moins de 5 km de chez lui. Et de l'autre, un arbre en polychlorure de vinyle PVC et en métal venu de Chine par bateau et en train. En présumant que le sapin « made in China » est ressorti de sa boîte, 6 années de suite, la moyenne de 2009 selon l'étude, l'analyse de cycle de vie révèle que l'arbre de plastique émet 8,1 kg de dioxyde de carbone par année contre 3,1 kg pour le conifère naturel. Alors, si le vrai sapin a un avantage écologique sur celui de PVC, c'est en partie parce que les conifères absorbent du CO2 pendant leur croissance, ce qui a un effet positif sur l'environnement. En revanche, dit l'étude, l'étape du transport du sapin naturel par le client entre le magasin et la maison est ce qui consomme le plus d'énergie dans tout son cycle de vie. Alors, vous devez conduire plus de 16 km pour acheter votre sapin naturel. Privilégiez alors l'arbre artificiel, acheté à 5 km de la maison. Va même jusqu'à dire l'étude de 70 pages. Une étude de 70 pages sur le sapin. Dans le cas du faux sapin, la production du plastique et du métal nécessaire à sa fabrication est l'étape qui affecte le plus son bilan. Elle compte plus de 85% de son impact sur les changements climatiques, loin devant les déchets qu'il génère, 2%, et ce même si l'objet termine sa vie dans un site d'enfouissement. Et pour le sapin naturel, l'étude a pris en compte qu'une moitié des arbres finit aux ordures et que l'autre est déchiqueté par la ville de Montréal puis transformé en combustible. Un processus énergivore, mais plus vert que le pétrole. Si la plupart des municipalités transforment les arbres de Noël en copeaux ou compost ou même en huile essentielle, vous pouvez aussi le recycler à la maison. Ah, l'Association canadienne des producteurs d'arbres de Noël propose plusieurs astuces, comme le transformer en bois de chauffage ou en paillis. Mieux, selon Équiterre, fabriquez votre propre sapin de Noël à partir de matériaux récupérés. Visitez aussi des sites d'articles usagés. Vous y trouverez de multiples façons originales de décorer votre maison pour les festivités de fin d'année. Alors donc, ça nous donne quand même assez le temps de choisir. Hein?
Oui.
Et puis là, on va parler un petit peu des sacs de plastique. On pourrait en parler énormément. Oh, là. 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites depuis 1950. La majeure partie, 79%, s'est retrouvée dans les décharges ou dans la nature, en particulier dans les océans. Et seulement 9% de ces déchets ont pu être recyclés. Et c'est dit, d'ici 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons.
Ouais, quand même.
C'est quelque chose, hein? C'est terrible. Mmh. Ailleurs dans le monde, on a commencé à réagir, là, sérieusement, au Rwanda. Depuis 2008, le pays a strictement interdit la production, l'importation et l'utilisation des sacs en polyéthylène. Et c'est l'un des pionniers en la matière. Seuls les sacs très épais et réutilisables sont autorisés. Et les contrevenants qui utiliseraient les sacs prohibés s'exposent à de lourdes amendes ou même à une peine d'emprisonnement.
Quand même.
Oui, on n'est pas au Rwanda ici encore. Non. Hein? Mm. On ne sera pas mis en prison avec notre sac de plastique. Là. Ailleurs, en Inde, au Mumbai... Et Mumbai est devenue en 2018 la plus grande métropole indienne à bannir les sacs et les bouteilles en plastique à usage unique. Et les habitants récalcitrants s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 25 000 roupies, l'équivalent de 475 $, et 3 mois de prison. L'Union européenne maintenant. Les pays qui en sont membres ont adopté au début de 2018 la stratégie plastique. Parmi les objectifs, n'avoir que des emballages en plastique recyclables sur le marché de l'Union européenne d'ici à 2030, réduire la consommation de plastique à usage unique et limiter l'ajout de microplastiques dans certains produits comme les cosmétiques. Et l'Australie, elle, depuis le 1er juillet 2018, les commerçants du Queensland n'ont plus le droit de fournir aux clients gratuitement ou pas des sacs en plastique à usage unique, y compris les sacs compostables, dégradables et biodégradables, qui, en se décomposant, peuvent encore nuire à l'environnement et à la faune, précise le gouvernement de cet État. Donc, et on termine en parlant de bannir l'eau en bouteille, alors là, c'est l'enfer. Ah. Les Québécois consomment 1 milliard de bouteilles d'eau chaque année. C'est quelque chose, hein? Payer pour ça est un non-sens absolu, affirme Alice Anne Simard. Alors, il faut également promouvoir la qualité de notre eau potable que les compagnies d'eau embouteillée ont participé à diaboliser. Professeur en assainissement de l'eau au Cégep de Saint-Laurent, Mathieu Bergeron rappelle que le prix de l'eau du robinet est estimé à environ 1 $ les 1000 litres. Contre 1 $ en moyenne pour 1 litre d'eau embouteillée.
Ah, quand même.
C'est quelque chose. Alors, si on avait sa propre bouteille qu'on remplissait à la maison avant de partir, on économiserait 1 000 $.
Quand même.
C'est quelque chose. C'est incroyable. Alors, on termine en disant que depuis le 1er janvier 2018, la distribution des sacs jetables dans les commerces de détail est interdite à Montréal. Et pourtant, on en retrouve énormément. La métropole québécoise a aussi décidé de bannir les bouteilles à usage unique de tous ses édifices municipaux au cours des prochaines années. Et des décisions qui s'inscrivent dans une prise de conscience mondiale des conséquences de notre consommation de plastique sur les écosystèmes terrestres et marins. Et chaque année, plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les océans, rapporte l'ONU. soit l'équivalent d'un camion à ordures complet chaque minute.
Quand même.
Causant la mort d'un million d'oiseaux de mer et de 100 000 mammifères marins annuellement. Australie, Royaume-Uni, Rwanda, Maroc, Californie, Inde, ailleurs dans le monde, les gouvernements prennent des décisions visant à interdire les objets en plastique à usage unique, comme les verres, les pailles, les bouteilles, les sacs, les ustensiles, etc., etc. L'offensive est lancée.
Tant mieux.
Hein? Oui, monsieur.
Il faudrait l'amener ici, l'offensive. Ben, quoi, il y a quelques gestes quand même qui sont faits. Oui, il y a quand même quelques gestes qui sont faits, entre autres à Montréal, où est-ce que le sac de plastique à usage unique, justement, est disparu. Merci beaucoup, Serge. On vous revient dans quelques instants avec Franceline. Alors, Franceline, à votre tour.
Oui, alors, dans cette deuxième partie, je vais lire quelques articles écrits par Linda Presley, que j'ai trouvé dans le journal du Bel Âge de octobre 2018, et qui font référence, par exemple, « Octobre est le mois du cancer du sein ». Alors, cette journaliste fait un petit tour d'horizon, et en particulier à propos de la prévention. Elle a deux aspects. D'abord, l'invitation au dépistage. Chaque Québécoise reçoit à son 50e anniversaire, puis tous les deux ans jusqu'à ses 69 ans, une lettre d'invitation à participer au programme québécois de dépistage du cancer du sein, lancé il y a 20 ans par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Céline Saint-Denis, ambassadrice de la Fondation du cancer du sein du Québec, se félicite d'avoir honoré l'invitation il y a quelques années. Un geste salvateur pour elle, puisque sa deuxième mammographie à 52 ans a révélé une tumeur. Qui sait quelle serait ma condition aujourd'hui si je n'avais pas tenu compte de l'avis ? À l'époque, je n'avais pourtant remarqué aucun signe, mais mon cancer était agressif, raconte-t-elle. Selon les données du ministère, le taux de participation au dépistage est d'environ 60% chaque année, ce qui indique qu'une bonne partie des femmes admissibles au programme choisissent de ne pas se soumettre à une mammographie de détection du cancer du sein. J'en connais qui jettent la lettre à la poubelle parce qu'elles redoutent l'expérience, dit Madame Saint-Denis, d'où sa volonté d'encourager toutes les femmes concernées à suivre son exemple. L'inconfort ne dure que 10 secondes et c'est tellement important, il en va de notre santé, voire de notre vie. Alors, on cite un chiffre ici. Dans son bilan, le programme québécois de dépistage du cancer du sein révèle que sur 1000 participantes, 13 femmes décéderont d'un cancer du sein, alors que chez les non-participantes, le taux est de 20 femmes pour 1000. Autre point dans cette prévention, l'activité physique, qui est une grande alliée. En effet, s'activer de 30 à 60 minutes par jour permet de réduire d'environ 25% les risques de développer un cancer du sein, rapporte Myriam Filion, kinésio-oncologue à la Fondation du cancer du sein du Québec. Même dans le cas de personnes atteintes, les bienfaits sont incalculables, ajoute-t-elle. Il suffit de 150 minutes d'activité physique par semaine pour faire diminuer jusqu'à 21% les risques de récidive. Quelques idées d'exercices bénéfiques, alors il y a le yoga, le bateau dragon, la marche, la natation, le vélo, la course à pied, le renforcement musculaire. En effet, selon une étude récente canado-américaine, une masse musculaire élevée aurait un effet protecteur contre le cancer du sein. Mais vu la fatigue et la douleur causées par les traitements, la motivation n'est pas au rendez-vous souvent. Le programme de kinésio-oncologie, Ma Santé Active, a justement été mis sur pied pour répondre aux besoins des personnes atteintes et de celles qui sont à risque. Étant donné leurs conditions particulières et leurs symptômes, une intervention personnalisée leur permet de faire de l'exercice de façon sécuritaire et de rester motivés, dit Madame Filion. L'application mobile Ma Santé Active, disponible dès le 31 octobre, a d'ailleurs été développée afin d'offrir aux patientes un programme d'exercice ultra personnalisé. L'application sera complémentaire à tout ce qui se fait déjà en oncologie et nous permettra de rejoindre le plus grand nombre possible de femmes dans tout le Québec, affirme la kinésio-oncologue. Nous serons en mesure de leur offrir du coaching et d'établir avec elles un lien de proximité afin de contribuer à créer entre les participantes un réseau d'entraide et de solidarité. À compter d'octobre, des patientes pourront se rendre dans un centre de yoga ayant reçu la formation Yoga Thrive, c'est-à-dire un programme thérapeutique conçu spécifiquement pour les femmes atteintes du cancer du sein et agréé par la Fondation du cancer du sein. Donc, pour y suivre un cours de yoga gratuitement, deux fois par semaine, jusqu'à 2 ans après la fin de leur traitement. Elles seront ainsi en bonne main et pourront profiter des effets positifs du yoga, comme le renforcement du système immunitaire, dont nous a parlé Claude tout à l'heure, la diminution du stress et de la fatigue due au traitement, assure Myriam Filion. Alors, pour toutes les infos concernant le cancer du sein, on va en entendre beaucoup parler durant ce mois d'octobre, j'imagine. On peut faire rubanrose.org et là, il y a plein d'informations. Alors ça, c'était mon premier point. Mon deuxième thème, c'est que du 1er au 7 octobre, c'est la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Alors, le réseau Avant de craquer, voué aux musettes des personnes qui accompagnent un proche atteint de maladie mentale, lance une campagne de sensibilisation sous le thème « Aider sans filtre ». L'objectif est de rejoindre les jeunes âgés de 18 à 25 ans qui doivent agir comme un accompagnateur auprès d'un proche touché par la maladie mentale, indique Christophe Bédard-Kipling, adjoint à l'organisation de l'événement. Que faire si notre petit enfant devient notre petit enfant? C'est le journal Le Bel Âge, donc on parle aux personnes de plus de 55 ans habituellement. Alors que faire si notre petit enfant devient accompagnateur? En tant que personne significative dans la vie du jeune, on peut jouer un rôle important pour assurer sa protection, sa sécurité et sa stabilité, assure Jean-Paul Huard, directeur de l'association La Lueur de l'Espoir du Bas-Saint-Laurent et vice-président du réseau Avant de craquer. Voici 3 façons d'y parvenir. Premièrement, observer. On devient sentinelle de notre jeune accompagnateur en demeurant attentif à sa réalité, tout en conservant une ouverture d'esprit. En tenant compte de ses besoins et de ses champs d'intérêt, on parvient à trouver des façons de l'aider dans son développement, dit Monsieur Huard. Il peut s'agir de l'inviter à pratiquer une activité qu'il aime, histoire de le sortir de son milieu de temps à autre. Deuxièmement, on écoute plutôt que de questionner. L'accompagnateur ne communique pas forcément avec autrui, redoutant de trahir son parent malade ou de se retrouver en famille d'accueil, explique Madame Monsieur Huard. Mieux vaut alors agir non pas comme un enquêteur, mais plutôt en établissant d'abord un lien de confiance avec lui. Il sera par la suite plus à l'aise de partager ses pensées ou ses inquiétudes. Enfin, on informe et on réfère aux besoins. Notre jeune pourrait se sentir démuni, isolé, sans amis, en situation d'échec scolaire ou encore avoir honte du trouble de santé mentale de son parent. On peut alors lui faire part des ressources proposées par le réseau de la santé ou communautaire et l'encourager à trouver du soutien extérieur, suggère M. Huard. Alors là aussi, pour avoir plus d'informations, on regarde le site avantdecraquer.com. Et il y a un numéro de téléphone, le 1-855-272-7837. Et voilà, et je terminerai par vous dire qu'aujourd'hui, le 1er octobre, c'est la journée internationale des personnes âgées et des aînés, donc la journée internationale des aînés, dont le thème est « Partenaire pour un mieux vivre ».
Voilà, beaucoup de sujets en ce mois d'octobre. Oui, quand même, c'est assez intéressant. Merci beaucoup, Franceline. Je vous reviens dans quelques instants avec « Renforcer son système immunitaire ». Renforcer son système immunitaire. Dans la première partie, je vous parlais justement, je vous donnais une description du système immunitaire qui n'était pas si simple, mais quand même, j'espère que vous avez quand même bien compris. Mais comment faire maintenant pour renforcer ce système immunitaire? Bon, on dit que pour préserver toute la figure de nos infections, en fait, de nos défenses immunitaires, et justement pour se prémunir contre les infections, conserver sa bonne santé, bien, on ne parlera pas dans ce papier d'allergies, entre autres, on ne parlera pas non plus de maladies auto-immunes qui apparaissent lorsque le système immunitaire fait l'erreur d'attaquer un organe ou un tissu sain, comme c'est le cas dans l'arthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques aussi. En biologie, on dit que l'immunité fait référence à la capacité qu'a le corps de se défendre contre des substances menaçantes pour son bon fonctionnement ou sa survie. Ces menaces peuvent être de trois ordres. Des microbes, virus, entre autres, bactéries, champignons, parasites, quand on a mal, admettons, à la gorge ou qu'on renifle, comme on dit en bon québécois, ben, des cellules devenues cancéreuses aussi, ou un corps étranger, une écharde aussi, aussi bien qu'un organe greffé. Eh ben, il est connu depuis longtemps qu'avec l'âge ou la maladie, l'immunité s'affaiblit et le corps devient plus vulnérable aux infections. Ces dernières deviennent souvent plus fréquentes et plus graves. Une grippe banale peut alors dégénérer en pneumonie et être fatale quand on est un peu plus âgé. Cela dit, on remarque aussi que certains adultes apparemment en bonne santé et possédant une quantité normale de cellules immunitaires contractent souvent des infections comme le rhume ou la gastro-entérite. Au contraire, dans des conditions similaires, d'autres y sont plus résistants. La différence se jouerait essentiellement sur le plan des habitudes de vie. En effet, de nombreuses données provenant d'études épidémiologiques indiquent que l'alimentation, le tabagisme, le sommeil, l'activité physique, le degré de stress, la qualité des relations humaines, imaginez, et le milieu de vie influencent tous la qualité de la réponse immunitaire. Ainsi, santé et immunité sont étroitement liées. Prendre soin de sa santé au jour le jour permet d'améliorer son immunité et vice-versa. La section, quand je vous donne des petits trucs comme ça, quand on dit qu'on peut le renforcer, son système immunitaire, ben, j'ai quelques points que vous pouvez retenir. Entre autres, on parlait un peu plus tôt de l'alimentation. Saviez-vous que les produits laitiers aident le système immunitaire, hein, quand vous n'êtes pas allergique naturellement, et d'éviter de manger un peu des aliments transformés, du junk food, comme on dit en bon québécois, eh ben, ça peut vous aider aussi, mais surtout des fromages, produits laitiers, des yogourts, ainsi de suite. Faire de l'exercice aussi, de la marche, hein, c'est sur long terme, mais ça fait beaucoup de bien. Travailler debout, entre autres aussi, quand vous êtes capable au bureau de travailler debout de temps en temps, ça aide beaucoup, ça vous fait bouger. Il y a une foule de propositions d'ailleurs sur Internet pour faire des exercices, entre autres dans l'auto et au bureau aussi. Il y a aussi le fait de donner du sang, ça renouvelle le sang, donc ça peut aider aussi. Le sommeil, bien dormir, hyper important. Et on dit que quand vous vous levez le matin et que vous êtes moins fatigué, ben, c'est que vous avez eu une bonne nuit de sommeil. Et finalement, se protéger du froid. Le corps, on dit qu'il perd beaucoup, beaucoup d'énergie quand il fait froid et qu'on n'est pas bien habillé l'hiver. Alors, c'est propice à ce que les virus vous attaquent directement, comme le rhume ou la grippe, puis tout ça va envahir votre corps naturellement. Alors voilà, c'est un papier que j'ai retrouvé sur le site de Passeport Santé. .net, renforcer son système immunitaire. Franceline, on a quelques petites brèves.
Tout à l'heure, on parlait d'eau, du coût de l'eau, et je vous dis, savez-vous que vous rincez vos toilettes avec de l'eau potable? Donc, l'eau potable aussi a un coût. En effet, les toilettes sont parmi les plus grands consommateurs d'eau, près d'un tiers de notre consommation d'eau potable. Peut-on lire sur le site de ConsoGlobe. Une donnée valable aussi à Montréal, sauf pour la Maison du développement durable qui, elle, floche à contre-courant. Le bâtiment est équipé d'un bassin servant à collecter l'eau de pluie en vue de son utilisation dans les toilettes. Des prévisions de réduction de plus de 55% pour l'eau potable et de 58% pour les eaux usées. Remarquerez-vous toujours le fond de la cuvette de la même manière, sachant que vous, hop, vous flushez de l'eau potable.
Oui, tout à fait. Hein? Il y a d'autres pays qui trouvent ça assez, assez étonnant qu'on se sert de l'eau potable.
Ben absolument.
De mon côté, c'est danser ralentit le vieillissement du cerveau, vous le saviez? Ah, ben, regardez-vous
bien. Bouger.
Oui. Nous savons que l'activité physique atténue les effets du vieillissement sur le cerveau. Mais y a-t-il des exercices plus efficaces que d'autres? Des chercheurs allemands ont comparé les résultats d'un entraînement d'endurance et de souplesse, entre autres le vélo, la marche nordique, les étirements, à ceux d'un cours de danse, le jazz, le salsa, entre autres. Et après 18 semaines, L'hippocampe, cette région du cerveau vitale pour la mémoire et l'équilibre, et qui tend à se réduire avec l'âge, avait grandi chez tous les participants, imaginez.
Ben oui.
Mais seuls les danseurs avaient amélioré leur sens de l'équilibre. Les exigences propres à la danse, apprentissage de pas, rythme changeant, expliquent sans doute ces grands, grands projets. Un progrès, en fait.
Ouais.
Et voilà, eh ben,
oui,
on est dans la
si
dernière minute.
Je ne sais pas si on a encore
minute.
Eu le temps.
Avez-vous quelqu'un?
Ouais, oui. Alors, j'en ai une sur l'avion ambulance
oui.
et qui est intitulée « C'est une première, une mère inuite accompagne son fils ». En effet, une mère inuite est arrivée à Montréal avec son fils victime d'un traumatisme à bord d'un avion ambulance Challenger le 28 juin dernier. Elle est la première à bénéficier de la nouvelle politique autorisant la présence d'un parent sur un avion ambulance. Et elle a dit « Je me sens très heureuse de pouvoir accompagner mon fils et cela me rend moins inquiète. Il n'y a rien de mieux qu'une mère pour connaître l'état de santé de son enfant », a-t-elle déclaré. Jusqu'à ce jour, effectivement, donc c'était le 28 juin dernier, aucun
D'accord.
parent ne pouvait accompagner son enfant en avion-ambulance. Ces derniers devaient partir seuls avec des étrangers. Depuis la fin janvier, les médecins et leaders autochtones dénonçaient ces évacuations jugées barbares. Le nombre de plaintes a finalement poussé...
D'accord.